plus profond des ondes. Histoire mystérieuse et extraordinaire, nouvelles et fictions imaginaires, enquête sur d'étranges affaires. Bonjour à tous, sous le soleil ou sous la pluie, à midi ou à minuit, CFM distille ses programmes et ses histoires. Aujourd'hui, une histoire spatiale étrange d'Olivier Delot, Les Ennemis. Puis, d'étonnantes révélations sur les grenouilles et les crapauds, sous le titre évocateur « L'immortalité des batraciens ». Tiens, tiens, j'ai dit tiens. D'Olivier Delot, « Les ennemis ». En débarquant sur Eustar, les astronautes Phil et Clark étaient convaincus, comme tous les spécialistes, qu'il ne se trouvait sur cette planète aucune forme de vie. Et, de fait, il ne s'y trouvait aucune forme de vie. Ce qui ne signifie pas qu'on n'y rencontrait pas d'ennemis. Phil et Clark, dans les quelques heures qu'ils passèrent sur Eustar, s'acquittèrent de nombreuses missions dont ils étaient chargés. Prélèvement de roches, contrôle de la présence de gaz, enregistrement de la pression d'air. Pour cette dernière mesure, les explorateurs de l'espace savaient que l'atmosphère régnant sur la planète était sensiblement celle de la Terre. Détail qui, soit dit en passant, leur permettrait à présent d'évoluer dans des combinaisons légères et sans le poids d'un scaphandre sur eux. Phil et Clark étaient deux bons copains issus du même quartier. Tout jeune, Clark avait fait partager à Phil sa passion du cosmos. Employé par la NASA, ayant suivi une formation de spationaute et enfin s'étant porté volontaire pour le voyage vers Eustar, les garçons avaient été hissés au rang de vedette par une Amérique ayant suivi à la télévision le moindre reportage sur leur séance d'entraînement. Maintenant, loin des caméras, les jeunes gens étaient sur Eustar où ils effectuaient soigneusement les tout derniers gestes à la manière sobre d'anglo-saxons qui ne laisseront éclater leur joie que plus tard, une fois revenus sur la Terre au milieu des leurs. Cependant, au moment où Phil et Clark regagnaient leur vaisseau pour quitter la planète, le premier des deux hommes fut intrigué par quelque chose. Il y avait autour de leur nacelle, ainsi baptisaient-ils parfois leur engin, appelée Agathe à d'autres moments, il y avait une sorte d'épaisse condensation. Cette condensation offrait l'aspect de nappes de brouillard verticales, se ramassant autour d'un centre au fur et à mesure que les deux hommes approchaient. Compactes, ces nappes devenaient circulaires. Elles prenaient l'aspect d'assiettes plates, encore que leur façon de vibrer frénétiquement ne permit pas de les identifier à de pareils objets. Et c'était cela qui était impressionnant dans ces formes. Plus que les voir se durcir en soleil alors que l'on avançait vers elles, la manière dont elles se hérissaient avec hostilité face à vous. Elles semblaient réellement vouloir crocheter quelque chose ou quelqu'un matérialisé en disque blanc, rayonnant. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Phil. Machinalement, il avait continué d'avancer vers Agathe. Il se jeta soudain en arrière. Il avait poussé un cri aussi. Il s'était brûlé. Incrédule, les yeux exorbités, il tenait son bras touché comme par un rayon laser. Clark et lui, pétrifiés, restèrent sans parole plusieurs secondes à regarder le phénomène. Les formes devenaient plus nombreuses. De 4 ou 5 qu'il y en avait au départ, on en comptait 7, 8. Une autre naissait, gigantesque aérole d'air blanc sur la porte de la nacelle.
Mais qu'est-ce que c'est ? Répéta Phil.
Clark avait de la peine à avaler sa salive. Les taches ne bougeaient plus. C'était lorsqu'ils avaient marché vers Agathe qu'elle s'était faite menaçante. N'avance pas, enjoignit Clark à son camarade. Tu n'as rien remarqué ? C'est lorsque nous faisons un pas dans leur direction qu'elles se dressent. Pas seulement cela, qu'elles se multiplient. Mais qu'est-ce que c'est que ce machin ? Répéta Phil livide. Une sorte d'aimantation, sans doute, réfléchissait Clark à voix haute. Un phénomène physique, on dirait. Il restait énigmatique. Son copain était pendu à ses lèvres. Vas-y, lâche le morceau. On dirait que c'est notre présence, en opposition à celle du vaisseau, qui déclenche ce truc. Mais Phil ne comprenait pas. Tout se passe, dit Clark, comme si l'on constituait un pôle et Agathe un autre pôle. Et comme si ces deux pôles antagonistes provoquaient cet effet. Ils regardaient toujours les formes face à eux. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Interrogea Phil. Je ne sais pas, avoua Clark. Tout ce que je constate, c'est que les taches ne vibrent, n'attaquent et ne brûlent que si nous nous approchons. C'était bien le cas. À présent qu'ils restaient immobiles, les formes perdaient de leur densité. Elles paraissaient prêtes à reprendre leur état premier et à évoluer en nappe autour de l'engin. Essayons quelque chose, fit Clark. Il se saisit de l'un de ces cailloux qui, tout d'aspect semblable, était en grand nombre sur All-Star. Il le lança en direction du vaisseau. Les assiettes jaillirent, reformées en un clin d'œil, circulaires et brillantes. Elles se confondirent en un ectoplasme éblouissant autour de la pierre. Tu peux être sûr que le caillou a senti sa douleur, commenta Clark. Mais ce n'est pas tout.
Ce n'est pas tout.
Tu t'es brûlé le bras à 20 mètres de la nacelle. Près d'elle, ce doit être un véritable foyer. Il avait ôté de sa combinaison l'un des montants de plastique. Regarde, fit-il. Il jeta l'accessoire. Le montant fut aussitôt désintégré dans la radioactivité des disques ayant fusé. Nous avons des combinaisons de caoutchouc, continua Clark. La porte d'Agathe est lourde à manœuvrer. Avant même de la toucher, nous serions... Le montant de la ceinture réduit en poudre disait pour lui quel sort leur aurait échu. Les deux hommes demeurèrent sans parole, à 20 mètres de leur vaisseau spatial. S'ils s'écartaient, les taches tendaient à se disperser, se dissoudre. Et s'ils reculaient encore, il n'y avait rien. L'air devenait clair. Mais qu'ils avancent et la buée menaçante se reformait. Elle s'installait en cercle approximatif. Qu'ils poursuivent encore, et ces foyers blancs se durcissaient en soucoupes de lumière prêtes à les anéantir. Clark, tristement, établit le seul constat qui s'imposait. C'est notre présence en opposition à celle d'Agathe qui crée ici ce phénomène. Agathe seule se comporte bien sur All-Star, nous aussi loin d'elle. C'est la réaction sur ce sol particulier du vaisseau à nos personnes, ou de nos personnes au vaisseau, qui produit ces formes. Il reprit non sans difficulté. Il n'y aurait qu'une chose pour stopper le phénomène. Ce serait de détruire Agathe, ou encore de détruire l'autre pôle, celui que nous constituons. Les deux hommes passèrent loin de leur nacelle ce que l'on pourrait appeler la nuit. Mais la nuit, aussi bien, était-elle une notion importée par eux dans cette partie de l'univers. Il n'y avait pas de nuit sur All-Star. Il n'y avait que la nuit. Lorsqu'ils sortirent de leur sommeil, ces ténèbres nimbées de clarté étaient les mêmes, comme toujours. Ils s'avancèrent vers leur sphère de métal. Elle était là, elle avait l'air de les attendre. Elle était nette, rassurante, vue dans la limpidité de l'espace constellé. Mais un second pas, un troisième, et la nacelle était enclose, envahie, dissimulée par la brume et les formes que cette brume enfantait. Clark encore jeta des cailloux, puis un autre plus gros. Ici, il y eut quelque chose. Il lança une nouvelle pierre tandis que Phil, suspendu à ses gestes, l'implorait des yeux. « Je... » fit Clark. « Quoi ?» cria Phil. « Il y a peut-être un espoir. Je... » Il avala sa salive. « Regarde, » reprit-il. « Lorsqu'on lance une pierre, eh bien non seulement les formes s'agglomèrent autour d'elle, mais encore elles sont retenues un instant. Elles sont neutralisées pendant quelques secondes lorsqu'elles ont un objet à phagocyter. » Il envoya un dernier caillou en direction des disques aux vibrations atténuées. Moins vivement que lors des jets précédents, une partie des formes se détacha du banc afin de cerner l'intrus.
Il y a une chose, réfléchissait Clark, une toute petite chose qui peut jouer en notre faveur. La stupidité de ces saletés. Plus précisément, la manière dont elles pourraient se laisser accaparer par un objet plus... Il essuya la sueur qui nappait son front. J'ai l'impression que si nous leur lancions un morceau de choix pour les occuper, il y aurait 5 secondes pendant lesquelles on pourrait foncer. Le cœur de Phil se mit à battre comme celui d'un forcené, mais qu'elle projetait en pâture aux formes pour les détourner d'eux. « Nos combinaisons, » dit Phil. Ils n'avaient que ça à leur disposition. La force de destruction de ces cercles est en proportion du volume qui se trouve face à eux, continuait Clark dans sa réflexion. S'il n'y avait que l'un d'entre nous ici, leur pouvoir d'aller d'un point à un autre, d'aller du véhicule à nous, serait amoindri. « Que veux-tu dire ?» demanda Phil. « Que je devrais me suicider ?»« Ce n'est pas indispensable pour le moment, » s'efforça de plaisanter Clark. « Du moins tant que nous avons nos tenues de soirée, elles feront le travail pour nous. » Ils se dépouillèrent de leur combinaison après avoir mis au point la stratégie suivante. Clark, le premier, lancerait sa protection vestimentaire et courait vers l'engin. Mieux valait que Phil et Clark ne s'élancent pas au même moment. Ils ne connaissaient pas le pouvoir de résorption représenté par leur combinaison. Ce pouvoir peut-être était faible. Manœuvrer la porte d'Agathe demandait quelques secondes. Celui des deux hommes qui se trouveraient en retrait sur les marches métalliques, en attente de l'ouverture de la porte, pour être absorbé en un clin d'œil par les formes immédiatement là collées à l'engin. Par ailleurs, Clark, en procédant seul, réduirait une partie de l'énergie constituée par eux deux. Par voie de conséquence, il atténuerait la charge du pôle ennemi. Phil, ensuite, jetant sa combinaison, aurait plus de chance pour lui. Clark décida de ne plus tarder. L'anneau thermonucléaire s'épaississait entre la nacelle et eux. D'ici 1 heure, il leur faudrait reculer encore d'un pas. Phil et Clark n'avaient plus sur eux à présent que la fine salopette de tissu spécial séparant leur peau de la combinaison. Légers, prêts à lancer ses combinaisons, ils répétèrent leurs gestes. Puis Clark jeta sa protection. Les taches aussitôt fusionnèrent avec effervescence sur les moulures du vêtement. Clark s'était élancé. Comme un fou, il traversa l'espace. Il tomba contre la porte de l'aéronef dont il agrippa la poignée dans un rugissement. Puis il s'affaissa sur le seuil en haut des 3 marches. Son corps était touché. Brûlé au 1er degré peut-être. Mais il était sauf. Agathe s'ouvrait. Les taches se soulevèrent au-dessus de la combinaison. Ayant perdu de leur virulence, piégés par les 2 cibles s'étant offertes, l'habit et son propriétaire, elles avaient quand même détruit la combinaison dont il ne restait qu'un résidu. Clark se traîna à l'intérieur de la cabine où, tétanisé par le choc, il demeura longuement prostré, privé de conscience. Néanmoins, il finit par voir son compagnon. Celui-ci serrait sa combinaison devant lui, mais ne s'en séparait pas. « Jette-la !» cria Clark, « jette-la !» Mais il y avait à cette minute 2 choses que Clark ignorait. D'abord, ses appels ne touchaient pas son camarade. Enfin et surtout, son évanouissement avait duré plus qu'il ne le pensait. Phil, bien sûr, voyait la porte ouverte. Pour autant, il avait vu son ami s'effondrer en hurlant. Au-delà des nappes, il avait perçu Clark étendu et sans connaissance sur le seuil du vaisseau. Il avait cru mort. Aussi, le jeune homme ne parvenait-il pas à plonger dans ce qui était pour lui un foyer d'énergie inconnu dont son bras, par ailleurs, avait reçu l'impact. Terrorisé, Phil estimait que s'il jetait sa combinaison, elle tomberait là, ridiculement, à ses pieds. Quand enfin les appels de son ami l'atteignirent, on put croire qu'il allait se servir de l'objet. Il ne se résigna pas. « Jette-la !» cria Clark. « Jette-la, nom d'un chien !»« Oui, oui, » gémissait Phil. Mais il ne se décidait pas. Alors Clark se mit à détester Phil. Lui, Clark avait foncé. Il avait ouvert la porte de l'engin. Il avait diminué de moitié la charge destructrice des disques, et maintenant Phil ne jetait pas sa combinaison. Phil osait un pas. Aussitôt il sentait le souffle brûlant, l'attente des cercles devant lui. Comme pris de folie, il jetait des pierres afin de détourner leur action. « Jette quelque chose aussi, » mendiait-il à son camarade. « Que veux-tu que je jette ? Quelque chose !» Mais il n'y avait rien à jeter dans Agathe.
tout avait son utilité. En cet instant, Clark de nouveau eut une faiblesse. Sa chair collée au tissu de la salopette lui faisait mal. Quand il rouvrit les yeux, Phil était dehors, encore essayant toujours de tromper l'attente des formes entre eux. « Jette-la !» hurla Clark. Il était pressé de partir. Il maudit ce Phil à cette minute. Alors le cri qui avait été le sien finit par toucher son camarade. Ce dernier lança la combinaison. Le jet en fut bref. « Vas-y, cours, cours, cours !» Phil courut. Mais les taches aimantées par la combinaison délivraient ce qui était à présent 30 mètres d'air contaminé. Clark vit le visage de Phil, celui de quelqu'un qui lutte contre une immense toile d'araignée. À quelques pas d'Agathe, le garçon fut fauché dans sa course. Il tomba, bousculé par quelque chose l'ayant fait pivoter sur ses talons. L'ayant renversé dans un invisible entonnoir où disques et radiations s'engouffrèrent en même temps que lui. La nuée le cacha un instant tandis que Clark, trop commotionné pour seulement fermer la bouche, gardait la main tendue sur le seuil d'Agathe, prêt à tirer vers l'intérieur son malheureux compagnon. Clark glissa sur les genoux contre la paroi de l'aéronef, tandis que sur sa rétine s'imprimait ce qui avait lieu. Phil, tournoyant sur lui-même, confondu par l'éclair qui le foudroyait, avant de l'abandonner là, sans vie, sans réalité, même sur le sol de la planète grise. De l'abandonner, oui, car ce pôle contraire, ayant cessé d'exister en la personne de Phil, les formes avaient disparu. Elles avaient cessé d'être autant que cesse d'être notre image dans la glace lorsqu'on s'écarte du miroir. On n'aurait pas pu trouver trace de ces formes ici qu'on aurait reconnu le jeune homme dans l'agglomérat noirâtre, s'étant substitué à lui, aussi calciné et non identifiable que ceux des deux combinaisons. Gémissant et pleurant, Clark, le visage enfoui dans ses mains, tâchait de fuir l'image qu'il n'occultait pas cependant en fermant les yeux. Dans l'air lumineuse et totalement dégagé, demeurait le contrefort goudronneux faisant les restes de Phil. Puis les appels insistants venus de la Terre et enfin entendus sur sa radio, ces appels eurent raison de Clark. Les jambes coupées, hâlées de radiation et souffrant dans chacun des pores de sa peau, Clark se résigna à accomplir les gestes qui permettraient à l'engin de se détacher de la planète. Gestes qui permettraient à l'astronaute de s'éloigner d'Eustar, sans doute, mais qui ne parviendrait jamais à séparer l'homme des visions qu'il y avait eues. Agathe se souleva avec une légèreté infinie. L'espace qu'elle abandonnait était clair. Les formes n'avaient pas plus de réalité qu'un rêve fait dans la nuit. L'air était pur. Transparent.
Eleanor Rigby picks up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. For all the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Church and was buried along with her name.
Merci d'être à l'écoute de nos programmes. Vous écoutez au plus profond des ondes, bien sûr, c'est le rendez-vous régulier où j'énonce quelques nouvelles, histoires insolites, un petit peu décalées, et quelques enquêtes. Nous poursuivons d'ailleurs par une enquête et nous allons parler de batraciens. L'immortalité du batracien. Vous verrez que les grenouilles et les crapauds sont d'étranges bestioles. C'est l'une des énigmes les plus déroutantes et les moins connues qui soient. Tout commence avec Ambroise Paré, le père de la chirurgie moderne, médecin personnel des rois Henri II et Charles IX. En 1579, il consigne dans ses œuvres un incident qui l'a profondément marqué. Il était en train de dépierrer une de ses vignes avec un terrassier à Meudon, lorsque tous deux découvrirent soudain un gros crapaud à l'intérieur de la roche qu'ils venaient de briser. Or, il n'y avait aucun trou visible dans son pourtour. Le seul espace vital était la cavité qui abritait le batracien, tel un noyau dans la pierre. Et l'animal, oui, l'animal était vivant. Ambroise Paré accusait le coup, son terrassier n'avait pas l'air spécialement ému. À vrai dire, ce n'était pas une nouveauté pour lui. Au chirurgien qui lui demandait comment cet animal avait pu naître, croître et avoir vie, le tailleur de roche répondit qu'il s'en fallait émerveiller parce que plusieurs fois il avait trouvé de tels animaux au profond des pierres sans apparence d'aucune ouverture. Le chirurgien du roi était-il victime d'une blague, d'un adroit tour de passe-passe effectué par un de ces rebouteux campagnards toujours prompts à rouler dans la farine les hommes de science? C'est probablement l'explication que nous auraient donnée les rationalistes du courant zététicien si s'était donné la peine d'étudier le cas. Mais, en 1827, leurs ancêtres du bulletin des sciences naturelles et de géologie sont allés plus loin, remplaçant l'extraordinaire par le foutraque. Ambroise Paré, qui était autodidacte, aurait commis, selon eux, une erreur non pas visuelle, mais sémantique. Crapaud, en effet, était le nom qu'employaient les ouvriers pour désigner la cavité que les minéralogistes appellent géode. Affaire classée ? Pas tout à fait. Non. Dans sa séance du 4 août 1851, l'Académie des sciences rouvre le dossier. Elle doit se prononcer sur une découverte du même genre qui vient d'être effectuée à Blois 2 mois plus tôt. En creusant un puits par 20 mètres de profondeur, 3 ouvriers sont tombés sur une pierre particulièrement grosse qu'ils peinent à extraire. Obligés de la fendre en 2, ils découvrent au cœur du silex un crapaud vivant. Intrigué par le courrier de la mairie de Blois, l'Académie ouvre une enquête sur 3 siècles qui l'amène à se pencher sur une trentaine de témoignages similaires, dont celui d'Ambroise Paré. Mais d'autres cas sont encore plus impressionnants, comme ce crapaud trouvé à l'intérieur du tronc d'un chêne centenaire, à Seigne en 1731, dans le noyau d'une pierre dure au château d'Écreville par le sculpteur Le Prince en 1756, ou encore dans un mur au domaine de Rincy par le duc d'Orléans 1770. À cet inventaire de découvertes fortuites, les académiciens joignent le résultat d'expériences menées en laboratoire comme celle de Hérisson et Edwards. D'où il ressort que des batraciens ont survécu plus de 6 mois après avoir été enfermés par les chercheurs dans un bloc de plâtre. En ce qui concerne la récente découverte de Blois, l'Académie des sciences précise dans son rapport de 1851 « Le corps du crapaud, en raison de ses dimensions, remplissait complètement le fond de cette géode. » Il ne pouvait y être contenu que dans une position fixe et déterminée qu'il devait garder constamment. Aucun mouvement donc. Aucune respiration possible. L'hibernation complète. Mais depuis combien de temps? Depuis la formation du silex? L'Académie ne se prononce pas. Elle s'en remet aux observations futures. De son compte rendu, il ressort néanmoins que la cavité n'a pas été creusée par le crapaud, mais qu'elle se serait formée autour de lui comme un moule enveloppe un objet pour en prendre l'empreinte. Quelles hypothèses avancer face à ce double mystère?
la manière dont l'animal s'est retrouvé dans la pierre et la façon dont il a survécu. Bizarre. Les batraciens sont dotés de pouvoirs assez particuliers, certes. Si l'on n'a jamais pu vraiment prouver qu'ils peuvent se muer en prince charmant, on sait en revanche que Rana Sylvatica, par exemple, la grenouille des bois, est capable de se changer en glaçon sans mourir. Grâce à l'amidon stocké dans son foie, qui se transforme en glucose, elle peut déclencher en toute sérénité son processus d'hibernation sous les feuilles mortes. Le cœur et le cerveau ne fonctionnent plus. Elle ne respire plus. Et ses yeux deviennent blancs, livides. Environ 65% de l'eau de son corps gèle, mais ses cellules sont protégées par l'antigel naturel que constitue le glucose. La grenouille panthère, elle, préfère se lyophiliser en évacuant la moitié de son eau corporelle. À la fin de l'hiver, elle se réhydrate en pompant l'humidité de la terre. Parfois, elle choisit d'hiberner dans des excavations circulaires qu'elle creuse dans une couche de sédiments. Est-ce l'amorce d'une explication ? Le batracien endormi s'est-il retrouvé prisonnier d'une concrétion qui s'est refermée autour de lui ? On aurait ainsi la preuve que certains de ces animaux, à la manière des bactéries, peuvent prolonger indéfiniment leur processus d'hibernation jusqu'au moment où un coup de masse les libère. Mais ce que l'observation nous suggère, seule l'expérience peut vraiment le confirmer. C'est là qu'intervient un industriel passionné de biologie, Alexandre Seguin, correspondant de l'Académie des sciences, laquelle enregistre sa communication en date du 15 septembre 1851, soit 2 mois après les conclusions qu'elle a publiées sur l'affaire de Blois. Ému par la découverte, 30 ans plus tôt, de crapauds vivants dans des roches brisées et des troncs d'arbres abattus, ce monsieur Seguin a décidé d'améliorer le protocole mis en œuvre par Hérisson et Edwards. Pour ce faire, il a enfermé dans des vases de terre des dizaines de grenouilles avant d'y couler du plâtre. 6 mois plus tard, armé d'une masse et d'un burin, il commence à casser les gangues. Les premiers sujets qu'il désincarcère sont morts, mais voilà qu'il en trouve un vivant, qui aussitôt bondit à l'air libre. Seguin décide alors de laisser les autres batraciens emmurés. Ce n'est qu'au bout de 6 ans qu'il les déplâtrera. L'hécatombe prévaut. Mais une fois encore, il découvre un survivant qui reprend aussi sec le cours de ses occupations comme s'il n'y avait eu aucune interruption dans son mode d'existence. 6 années sans nourriture, sans eau, sans air. La résurrection du batracien a eu lieu devant témoins. Tout est consigné dans un procès-verbal que l'Académie entérine et joint au dossier qu'elle a publié 2 mois plus tôt. L'année suivante, en 1852, un nouveau crapaud est découvert en vie à Patswick, en Angleterre, au cœur d'un rocher qu'on vient de briser dans une mine à 4 mètres de profondeur. Cette fois, variante. La cavité sans accès visible, dans laquelle hibernerait le batracien, tapissée de carbonate de calcium, est beaucoup plus grande que lui. 15 cm de diamètre. Cela dit, ce gain de surface habitable ne semble pas un facteur de longévité à l'air libre. Le squatter meurt quelques heures après avoir été expulsé de son logement, révèle The Zoologist. Mais l'analyse scientifique effectuée ensuite à son autopsie va stimuler la curiosité des chercheurs anglais durant quelques mois. Vous n'aviez jamais entendu parler de ces expériences. Moi non plus, avant que le professeur Rémy Chauvin ne me montre quelques-unes des pièces du dossier en 1997. On se demande comment la science, après tant d'observations historiques et 3 sessions d'expériences françaises, en partie réussies, a pu laisser de tels phénomènes sombrer dans l'oubli. La réponse est claire, en l'occurrence. Un rationaliste, un seul, mais d'une importance cruciale, a résolu le problème en décrétant qu'il n'existait pas. Cet homme s'appelait Louis Figuier. Il était docteur en médecine, rédacteur en chef de la Science Illustrée et publiait un inventaire annuel de toutes les nouvelles recherches et découvertes. L'année scientifique, ouvrage qu'il faisait office de Bible dans sa communauté. En 1851, Figuier passe sous silence le rapport de l'Académie sur l'affaire des crapauds, évidemment. En revanche, dans son édition de 1861, il invente que Seguin, une des plus grandes notabilités scientifiques et industrielles de la France, souligne-t-il, a démontré l'impossibilité que des crapauds puissent survivre dans une pierre. Cela semble tomber sous le sens. Du coup, il occulte les deux expériences réussies par le même Seguin en 1845 et 1851 pour ne mentionner que sa découverte de cadavres dans les deux derniers vases de plâtre brisé en mai 1860. Quant aux observations antérieures, consignées par l'Académie des sciences, notamment celles d'Écreville et de Blois, Figuier les récuse d'une phrase en décrétant que les ouvriers avaient mal vu. Laissant entendre que des témoins dénués d'instruction ne sont pas dignes de foi. Il passe à la trappe les témoignages du chirurgien Ambroise Paré en 1579 et du duc d'Orléans en 1770 pour non-appartenance à la classe ouvrière et conclut avec une outrecuidance exquise, je cite, « C'est là, dans tous les cas, une question parfaitement indifférente à la science et nous ne donnerions pas ça pour l'avoir résolue. Que les amis du merveilleux nous jettent la pierre, une pierre à crapaud, bien entendu. » Vous l'avez compris, M. Figuier ironise. Et c'est ainsi que le figuier stérilisateur, comme Rémi Chauvin le surnommait dans ses cours à la Sorbonne, en référence à la parabole du figuier stérile, referma sciemment un passionnant chemin de traverse permettant d'étudier les pouvoirs de survie d'un organisme animal. Après un tel enterrement officiel dans l'année scientifique, aucun chercheur digne de ce nom n'allait perdre son temps à retenter une exploration de ce terrain désormais condamné. Mais c'était compté sans la curiosité encyclopédique d'un ébouriffant militaire, le colonel Albert de Rochas. Directeur de l'école polytechnique, cet empêcheur de censurer en rond, féru de mystères métapsychiques, rouvrit le dossier en 1885 et lui consacra, dans la très sérieuse revue La Nature, une publication retentissante intitulée « Crapaud vivant trouvé dans une pierre ». Et il faut dire que les ouvriers terrassiers qui n'avaient pas lu l'ouvrage scientifique de M. Figuier et persistaient donc à croire à ce qu'ils voyaient, avait continué, sans volonté de nuire à sa réputation, de briser des cailloux où se trouvaient des batraciens en état d'hibernation. Ainsi, en 1865, en Angleterre, un crapaud particulièrement vivace avait-il jailli d'un bloc de calcaire, la gueule soudée mais émettant des sortes d'aboiements par les narines. Il était de couleur pâle, identique à la pierre, mais rapidement, elle se fit plus foncée jusqu'à devenir proche d'un beau vert olive. Et ce n'est pas fini. Aux États-Unis, en 1958, 64 ans après la mort de Louis Figuier, des ouvriers miniers de l'Utah offensent encore sa mémoire en faisant exposer dans une galerie un arbre pétrifié d'où s'échappe une grenouille vivante. Ses pattes sont munies de ventouses au lieu d'être palmées. Mais le plus extraordinaire survient en 1960, au Texas, lorsque des archéologues mettant au jour une fosse garnie d'ossements de mammouth, y découvrent des boules d'argile dure qu'ils entreprennent de fragmenter délicatement à la recherche de fossiles. Ils y trouvent des grenouilles. Certaines sont vivantes, dépourvues de pigmentation quasi transparente et la gueule scellée. On autopsie les autres. Les spécialistes de la Smithsonian Institution les datent de la même époque que les mammouths. Des grenouilles préhistoriques ramenées à la vie. Devenues contemporaines de leurs descendantes, encore plus fort que le Jurassic Park qui germera dans le cerveau du romancier Michael Crichton 25 ans plus tard. Qu'a-t-on fait de ces rescapés de l'âge de pierre? Aucune idée. Il se murmure, chez les paléontologues, que les services de la santé de l'armée américaine les auraient congelés au niveau top secret, par crainte qu'elles ne répandent dans la nature des microbes antédiluviens. De quoi inciter les conspirationnistes à déduire que certaines de nos armes chimiques seraient issues d'un venin de crapaud de la préhistoire. Bon, là on sourit un peu. Où en est-on aujourd'hui, un demi-siècle plus tard? Depuis la falsification du résultat des expériences Seguin par le docteur Figuier, aucun tortionnaire de laboratoire, à ma connaissance, n'a emplâtré de batracien pour tester son pouvoir de survie. Bizarre, reconnaissons-le.
Étrange bestiole, n'est-ce pas, que ces grenouilles et ces crapauds. Ce n'est peut-être pas pour rien qu'ils alimentent d'ailleurs les contes de fées. Je vous dis à la semaine prochaine. Restez bien à l'écoute de nos programmes et nous nous quittons en musique.
Thank you.